Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les parents s'organisent à la veille d'un mouvement de grève qui s'annonce massif dans l'éducation nationale, solidaire souvent malgré la garde des enfants à gérer. Semaine horribilis pendant ce temps pour Jean-Michel Blanquer, critiqué par les enseignants, les oppositions politiques, officiellement soutenues par l'exécutif, mais ce n'est pas vraiment simple non plus au sein du gouvernement, on l'entendra. Omicron, le variant qui change la donne, contamination record, mais plusieurs pays desserrent les contraintes et laissent circuler le virus, parions qu'il nous fasse sortir de la pandémie. Dans l'actualité encore, est-ce la fête de trop pour Bojo au Royaume-Uni, contraint de présenter ses excuses pour avoir participé à une fête à Downing Street en plein confinement. Une nouvelle algue invasive repérée dans le sud de la France, elle pourrait créer d'importants dégâts en Méditerranée. Et puis un film audacieux, magistral même pour certains, Onoda, couronné par le prix Louis Deluc. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien la grève des enseignants demain, la lassitude des protocoles à géométrie variable. Nous aussi, on en parle ce soir avec vos témoignages, vous qui êtes enseignants, vous qui êtes parents aussi. Est-ce qu'il aurait fallu fermer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus fluide? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a de la colère et ça va se voir dans les écoles demain. Journée nationale de grève dans l'éducation nationale. La mobilisation s'annonce massive. Sans doute la moitié des écoles fermées dans le premier degré et des accueils qui ne pourront pas être organisés partout à cause des malades et de la grève annoncée dans le périscolaire également. Bref, ce soir, la question, c'est que va-t-on faire des enfants? Des parents habitués à jongler et pour la plupart solidaires au micro de Christophe Vincent dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon.
Yuna en est sûre, elle devra garder ses enfants à la maison.
Ils vont pas à l'école parce que les écoles sont fermées, ouais. On me l'a dit par mail, ouais. Les deux maîtresses des enfants. Du coup, je m'arrête de travailler, pas le choix. On a un petit peu marre, mais les enseignants aussi, ils en ont marre. On en a tous marre, les parents, les élèves, tout le monde.
Même scénario pour Raphaël, artisan, mais lui pourra compter sur sa compagne.
Leurs enseignants font grève des deux côtés, parce qu'on a un enfant en maternelle et un enfant en primaire. Et à la maison, c'est la maman qui est enseignante gréviste aussi au collège, qui du coup pourra les garder. On a cette chance-là, effectivement. On ne sera pas non plus dans la difficulté pour faire garder les enfants.
Linda a 3 enfants. La seule incertitude concerne le collégien.
On a 2 enfants en élémentaire là, qui iront à l'école, parce que l'enseignant n'a pas indiqué faire grève. Et un collégien, et là, ben, on ne sait pas en fait.
Jean, il n'aura pas cours à un moment. Il a des profs qui vont faire grève.
Ils vont à la pêche aux informations, donc on verra.
Antoine n'est pas touché, mais il se dit solidaire.
L'enseignant ne fait pas grève, mais en même temps, je comprends parfaitement que les enseignants fassent grève, vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, vu tous les efforts qu'ils font pour que ça se fasse correctement, je comprends qu'ils fassent grève. Ouais.
Une opinion très largement partagée. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Le mouvement, une fois n'est pas coutume, donc est largement soutenu. Enseignants, directeurs et parents épuisés par 2 années de crise sanitaire, par ces protocoles qui n'ont cessé de changer ces derniers jours et par la petite phrase de Jean-Michel Blanquer, on ne fait pas grève contre le virus qui n'a rien arrangé. Le ministre de l'Éducation nationale, soutenu officiellement par le gouvernement. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Mais qui apparaît tout de même fragilisé.
Oui, c'est la Saint-Jean-Michel, constate un proche du président. Il a bon dos, il est en bout de chaîne et ça l'énerve. Avant le conseil des ministres ce matin à l'Élysée, il s'en est pris à Olivier Véran. Il faut que tu te calmes, il faut qu'on fasse bloc, lui a répondu le ministre de la Santé selon nos confrères du Parisien. Les deux hommes ne cessent de s'affronter et cela dépasse la question sanitaire. Ils ont chacun leur ligne politique et de l'ambition pour la suite. Emmanuel Macron a voulu calmer le jeu pendant le Conseil, remerciant le Premier ministre et le ministre de l'Éducation pour les décisions pragmatiques qui ont été prises. Jean Castex, lui, n'a encore jamais soutenu publiquement son ministre. Il n'a même pas cité son nom cette semaine, que ce soit aux 20h de France 2 lundi, lors des questions au gouvernement hier à l'Assemblée, aujourd'hui au Sénat. Le service minimum a été réalisé tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec un enthousiasme relatif.
Ah non, je vous confirme qu'on est tous très en soutien de Jean-Michel Blanquer, qu'on avance comme un pack dans cette crise depuis le début.
Et quoi qu'il arrive, ce pack tiendra jusqu'à la présidentielle. Heureusement qu'il ne reste que 3 mois, glisse un macroniste. Blanquer va tenir face aux appels à la démission qui se multiplient. PS, insoumis, écologiste. Il paye aussi son combat contre, je cite, le wokisme, l'islamo-gauchisme. Combat qui exaspère la gauche et agace une partie du gouvernement.
Jean-Michel Blanquer, fragilisé, on l'entend, merci Maxence Lambrec, dont la priorité a toujours été de maintenir les écoles ouvertes. Les enfants peuvent peuvent désormais, à partir de 5 ans, se faire vacciner. Ça démarre doucement. 2% des 5-11 ans ont reçu une dose, entre autres parce qu'il y a des centres, des créneaux dédiés. En Haute-Garonne, par exemple, 4 centres seulement le font, dont un seul à Toulouse et 3 autres dans d'autres communes, dont Montastruc, la conseillère, qui pique le mercredi et où s'est rendue aujourd'hui Soizic Pelet.
Cet après-midi, dans la ligne dédiée aux enfants, facile à reconnaître puisqu'elle est couverte de dessins, ils sont quelques-uns à attendre. Et c'est au tour d'Evan de passer avec le docteur François Gérard.
Donc tu vas t'asseoir ici, tu bouges pas, tu restes bien étendu. Et voilà, c'est fini.
Un passage important pour sa maman Ghislaine.
On est tous vaccinés à la maison. On l'a fait très rapidement après l'annonce et donc on a réussi à obtenir rapidement un rendez-vous.
Elle est venue d'un petit village à côté, mais certains ont fait beaucoup plus de routes pour venir faire vacciner leur enfant. C'est le cas de Delphine, pour qui la prise de rendez-vous a été assez compliquée.
Elle a été difficile par chez nous, où il y avait peu de créneaux qui avaient été pris d'assaut par rapport à des horaires où on pouvait accompagner notre fils. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici, à 30 minutes environ du lieu d'habitation.
Ici, 40 créneaux sont disponibles chaque mercredi, samedi et dimanche pour les enfants de moins de 12 ans, parce que dès que la vaccination a été possible pour eux, le maire de la commune, Jean-Baptiste Capel, a voulu faire en sorte d'accueillir le plus de familles possible.
Je crois beaucoup à la vaccination, donc en tant qu'élu local, j'ai voulu mettre le maximum de moyens pour lutter contre cette pandémie. Et puis, on s'est rendu compte qu'on accueillait des gens de tout le département de l'Haute-Garonne et même d'autres départements limitrophes.
Depuis un mois, une centaine d'enfants de moins de 12 ans a reçu sa première injection dans ce centre de vaccination.
Reportage Soizic Pelet. Sur le télétravail, le gouvernement a du mal à se faire entendre. Selon un sondage du ministère, 30% des actifs ont travaillé à la maison en janvier, c'est-à-dire autant qu'au mois de décembre. En tout cas, l'exécutif dément laisser circuler le virus. Et on donne pour preuve la stratégie de test encore massive en France. Pourtant, on le voit chez nos voisins et un peu plus loin. L'extrême contagiosité du variant Omicron change la donne. Les protocoles et les restrictions de plus en plus souples aux États-Unis, en Israël, en Italie ou encore en Espagne. Jusqu'à considérer le Covid, en tout cas le variant Omicron, comme une simple grippe, Marie-Pierre Véraud.
Et c'est Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, qui le propose sans détour lors d'une interview à la radio Cadena Ser.
Il est important, je pense, de commencer à considérer que le Covid évolue vers une maladie endémique et non plus une pandémie telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Il entend ouvrir le débat, certes avec prudence et de manière progressive, mais on ne peut ignorer, ajoute Pedro Sanchez, que la mortalité du virus est passée de 13% lors de la première vague à 1% aujourd'hui. Ce changement de stratégie trouve un écho de l'autre côté des Alpes, en Italie, où des virologues souhaitent sortir de l'anxiété des chiffres quotidiens, quand la Suisse se prend à rêver du début de la fin de la pandémie. Même optimisme prudent des autorités sanitaires américaines qui pensent que l'on va pouvoir vivre bientôt avec le virus. Cet espoir repose sur la combinaison de la vaccination et du variant Omicron, dont la forte contagiosité mais la faible létalité pourraient booster l'immunité naturelle des populations. Un peu partout d'ailleurs, les quarantaines s'allègent. Mais attention, nous sommes encore dans une pandémie, avertit l'Agence européenne des médicaments, qui appelle toutefois pour l'heure à lever le pied sur les rappels à répétition. Pas question aujourd'hui de préconiser une quatrième dose en Europe.
Et pourtant, c'est bien la décision que vient de prendre le Danemark. Le pays va proposer une quatrième dose de vaccin aux plus vulnérables, annonce ce soir le gouvernement. En France, le pass sanitaire pourrait être désactivé pour 500 à 700 000 personnes samedi parce qu'elles n'ont pas encore fait leur rappel. Un chiffre sans doute surestimé parce qu'il ne prend pas en compte les Français récemment infectés par le Covid. La bonne nouvelle à côté de ça, c'est que l'épidémie de bronchiolite diminue chez les enfants de moins de 2 ans et celle de la grippe se stabilise. La campagne de vaccination a d'ailleurs été prolongée jusqu'à la fin du mois de février. Et puis plus de 5 000 greffes d'organes ont été réalisées en France l'année dernière. C'est 20% de plus qu'en 2020. Année très particulière, on le sait, mais toujours moins qu'en 2019. Insuffisante donc face à la demande, même si c'est aussi le signe d'AVC que l'on soigne mieux ou d'une mortalité routière qui baisse. De bonnes nouvelles, même si ça diminue aussi le nombre de donneurs.
Et à 19h09, Hélène, ça va pas fort pour Boris Johnson en ce moment.
Il s'approche, le Premier ministre britannique. Mais la tempête est forte avec ses révélations en cascade sur des fêtes organisées par Downing Street en plein confinement. Boris Johnson sommet de s'expliquer aujourd'hui dans une chambre des communes surchauffée. Il l'assure, il pensait que c'était une réunion de travail, il s'excuse. Mais les appels à la démission se multiplient et la défiance augmente, y compris au sein des conservateurs, analyse la professeure Agnès Alexandre Collier, spécialiste de la vie politique britannique.
C'est une espèce de patience qui s'effrite au sein du camp conservateur sur les mensonges. Donc on sait que Boris Johnson a été très friand depuis plusieurs années. C'est sa personnalité et puis surtout la façon dont il réagit au scandale, c'est-à-dire que systématiquement il nie, il détourne la réalité et ça commence à poser problème. À mon avis, le scénario le plus probable, ce serait plutôt suite aux excuses qu'on a pu observer aujourd'hui, qui consistent à calmer le jeu, surtout dans son propre camp, Boris Johnson fera en sorte d'attendre le verdict de l'enquête qui est en cours et qui devrait, à mon avis, rendre son rapport au printemps, c'est-à-dire à peu près au moment des élections locales. Et si les conclusions sont favorables, que les élections locales sont favorables aux conservateurs, à ce moment-là, il aura un bon prétexte pour rester.
La spécialiste de la vie politique britannique, Agnès Alexandre Collier, invitée du 17-20 France Info ce soir, et Nicolas Taillard. Et puis, le prince Andrew n'évitera sans doute pas le procès. L'un de ses recours vient d'être rejeté. Le prince, embarrassé depuis plusieurs années par ses liens avec Jeffrey Epstein et sa compagne, récemment condamnée pour trafic sexuel. La femme qui accuse le deuxième fils de la reine d'Angleterre d'agression sexuelle lui aurait été présentée par ce couple. 9 ans après le drame, est-ce un vrai rebondissement de l'enquête sur la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie? Un cycliste et 3 Britanniques d'une même famille dans une voiture avaient été retrouvés abattus sur un parking. 2 fillettes avaient miraculeusement échappé au tueur. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et une personne a été placée en garde à vue aujourd'hui par la section de recherche de Chambéry.
Oui, une personne originaire de la région Rhône-Alpes placée en garde à vue depuis ce matin 8h, son domicile perquisitionné. Un suspect qui aurait déjà été entendu dans le cadre de ce dossier selon son avocat. Ce que l'on sait en revanche, c'est que tous les éléments de l'affaire, les bornages téléphoniques, le jour du crime, ont ces derniers mois, étaient passés à nouveau au crible par la cellule Diane de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. C'est cette cellule qui traque notamment les incohérences entre les déclarations des suspects et leurs traces numériques dans leurs emplois du temps. La procureure d'Annecy, Lynn Bonnet, a malgré tout appelé à la plus grande prudence en attendant la fin de la garde à vue, la vérification justement de l'emploi du temps de cette personne au moment des faits et les premiers résultats des perquisitions chez elle. Une grande prudence qui s'explique aussi sans doute par le suicide en juin 2014 d'un précédent gardé à vue, un ex-légionnaire qui avait le profil pour l'usage des armes et qui connaissait l'une des victimes, le cycliste abattu à côté de la voiture de la famille Al-Ili. Les avancées de l'enquête avaient permis par la suite d'écarter l'hypothèse de son implication dans cette tragédie.
Emmanuel Leclerc, à Lille, un chauffeur de poids lourd est en garde à vue après avoir percuté et tué un livreur Deliveroo à vélo hier soir en redémarrant à un feu rouge et il ne l'avait pas vu. Le livreur tué sur le coup avait 16 ans, en dessous de l'âge légal pour travailler officiellement dans cette entreprise. Et puis cette condamnation de l'ancien patron de la société Covex à Châteauroux, 2 ans de prison ferme pour avoir vendu des millions de masques chinois sous la fausse étiquette Made in France. Leur usine a fermé en novembre, ils l'occupent depuis et ils sont venus se faire entendre aujourd'hui à Paris. 200 anciens salariés de l'équipementier SAM, sous-traitant de Renault, réclament des indemnités supplémentaires aux constructeurs et ils demandent le soutien de l'État. Sarah Lemoine, parmi eux, sous les fenêtres du ministre Bruno Le Maire.
Pour se faire bien entendre, les ex-salariés de la SAM ont donné un concert avec des pièces d'aluminium pour essuie-glace sous les fenêtres du ministère de l'économie depuis 14 heures. 200 d'entre eux ont fait le voyage depuis Viviers en Aveyron, parmi eux Véronique, venue exprimer un gros ras-le-bol.
Se foutent de nous, quoi, que ce soit Renault ou l'État, quoi, donc c'est pas possible de rester comme ça, quoi. On a demandé justement une reconnaissance financière, on attend toujours, et là justement on veut mettre la pression, parce que là, c'est plus possible de rester comme ça fait quand même 50 jours qu'on occupe notre entreprise. On respecte notre outil de travail, parce que le fonderie, on peut faire plein de choses. Si on ne fait pas de l'automobile, on fera autre chose. Donc M. Macron a beaucoup de paroles justement sur la réindustrialisation, mais on ne voit rien venir. Il va falloir que ça change, quoi. C'est pas possible.
Depuis la liquidation du site fin novembre, les ex-salariés demandent à Renault, leur unique donneur d'ordre, de verser des indemnités de licenciement dignes de ce nom et à l'État de se mobiliser davantage sur la réindustrialisation de l'usine. Les salariés ont reçu la visite de deux candidats à la présidentielle cet après-midi, le communiste Fabien Roussel et l'écologiste Yannick Jadot. Tous deux réclament la nationalisation temporaire de l'usine. Une délégation a également été reçue à Bercy par le ministre de l'économie. À la sortie, les salariés notent des avancées, mais disent rester prudents.
Un reportage signé Sarah Lemoine. Le transport aérien qui a fondu avec la crise et qui a du mal à rebondir. Deux fois moins de passagers en 2021 que deux ans plus tôt, selon les derniers chiffres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et voici une nouvelle algue invasive repérée dans les eaux du parc national de Porquerolles, rouge, filamenteuse, originaire de la mer Rouge et de l'océan Indien. Elle produit des molécules toxiques qui la préserve de la prédation et ce n'est pas très rassurant, Sophie Glotin.
Non, parce que cette algue rouge filamenteuse développe un tapis très dense comparable à de la mousse et elle pourrait provoquer d'importants dégâts. Le professeur Charles-François Boudouresque de l'Institut méditerranéen d'océanologie.
Elle pose des problèmes dans l'aire des posidonies et elle est susceptible de causer la régression des posidonies. Et ça, c'est forcément inquiétant.
Le biologiste marin est même pessimiste. On ne pourra pas lutter contre la Lophocladial allemandi. On ne pourra pas l'éradiquer, dit-il, d'autant que cette algue n'a pas de prédateur.
Elle est assez hégémonique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'éliminer les espèces qui font partie du peuplement naturel. Une raison, c'est qu'elle contient des substances toxiques qui la rendent très difficile à consommer de la part des herbivores. Et donc, ça lui donne un avantage très important dans la compétition avec les autres espèces.
D'autres explorations vont avoir lieu dans les semaines qui viennent pour savoir si l'algue rouge a pu coloniser d'autres sites du parc national de Porquerolles et du littoral varois.
Sophie Glotin, France Bleu Provence. Le petit nom de cette algue, Lophocladia l'allemandi, algue déjà détectée en Italie. Présente au Baléares depuis plus de 10 ans. Encore un report pour le PR de Flamanville, encore un problème sur des soudures. Ce réacteur nouvelle génération est en travaux depuis maintenant 14 ans. Et puis c'est un peu le Goncourt du cinéma dont je vais vous parler à présent. C'est le prix Louis Deluc qui a été attribué ce midi au cinéaste Arthur Harari pour son film Onoda. C'est l'histoire vraie d'un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui, perdu dans une île des Philippines, n'a rendu les armes qu'en 1974. Le film a été encensé à Cannes, sorti hélas au moment de l'instauration du pass sanitaire fin juillet. Il pourrait revenir sur les écrans. C'est en tout cas ce que réclame le jury du prix de Luc en vertu des qualités exceptionnelles du film, dit-il. Son réalisateur est évidemment partant, Arthur Harari, très heureux de sa récompense. Au micro de Corinne Pellissier.
C'est rare, les films qui ressortent en salle. Je crois que le dernier exemple en date marquant, c'est Fatima de Philippe Faucon, qui était ressorti après avoir obtenu beaucoup de César. Ce qu'on peut souhaiter de mieux au film, c'est ça, aujourd'hui. Ouais. On a eu des prix un peu en festival à l'étranger, mais c'est là le prix de Luc, c'est le premier prix qui est symboliquement très fort, qui vient récompenser le film, donc c'est génial. Le démarrage était dur à cause de l'instauration du pass sanitaire, et après, il y avait un bouche à oreille très très bon. C'est un film en langue japonaise, il n'y a pas de star. Donc, le prix Louis Deluc, c'est symboliquement très fort aussi pour ce genre de considération, c'est-à-dire rendre visible un peu plus qu'il ne l'est un film comme celui-là.
Arthur Harari, lauréat du prix Louis Deluc, du nom de l'un des pionniers de l'avant-garde cinématographique française des années 20. Et l'on apprend aujourd'hui la mort de son neveu, Gilles Deluc, qui lui avait consacré une biographie, mais qui est surtout connu pour son travail de préhistorien. C'était l'un des grands spécialistes de la grotte de Lascaux en Dordogne. Il avait aussi découvert plusieurs cavités souterraines du Périgord portant des traces de l'homme de Cro-Magnon. Il avait 87 ans.
Merci beaucoup Hélène Philippe. Bien sûr, on se retrouve demain pour nous la suite. C'est le téléphone sonne, on va parler de la grève des enseignants demain, du personnel d'ailleurs autour de l'éducation nationale. Demain, un œil sur le ciel d'abord.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait de plus en plus frais.
Oui, c'est l'hiver, on dirait.
La
baisse des températures se poursuit. Et cette baisse sera surtout sensible cette nuit avec de fortes gelées à craindre entre le sud-ouest et le centre-est, mais aussi sur les régions méditerranéennes. On attend moins 2 degrés à Aix-en-Provence, Besançon ou encore Libourne, moins 3 degrés à Béziers, moins 4 degrés à Villefranche-sur-Saône et Mulhouse, moins 5 degrés à Sabre dans les Landes, Bergerac ou encore Grenoble. Baisse également des températures maximales, 4 degrés à Lille, Paris, Metz et Dijon, 6 degrés à Agen et Le Havre demain après-midi, 8 degrés pour Rennes et Bordeaux, 10 degrés à Perpignan et Aurillac, mais quand même 14 degrés à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques et à Ajaccio et 15 degrés à Toulon.
Et puis ensoleillé après dissipation des grisailles, comme on dit.
C'est une fameuse formule, hein. Comme ce matin, les grisailles seront fréquentes au lever du jour entre la Nouvelle-Aquitaine, le Midi Toulousain et un large quart nord-est. Ces nuages bas et plaques de brouillard évolueront généralement favorablement, le plus souvent avant la mi-journée pour un après-midi sous le soleil. Alors localement, quelques poches de grisailles pourront quand même résister, notamment vers le Lyonnais ou dans la vallée de la Garonne. Les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, ainsi que les régions de la Méditerranée bénéficieront du soleil dès le lever du jour. Et puis de la Bretagne et la Loire-Atlantique au Hauts-de-France, la journée commencera sous les nuages. Le ciel va progressivement s'éclaircir pour un après-midi nettement plus lumineux.
Et Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.